France Info.
Bonsoir et bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat, une heure à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT, sur les réseaux sociaux et sur notre site franceinfo.fr. Au programme ce soir, eh bien du jaune. Comme les gilets jaunes, les samedis se suivent et se ressemblent. Nouvelle journée de mobilisation à travers la France. Un samedi pas comme les autres, quand même le premier depuis l'entrée en vigueur de la loi anti-casseurs et après le début des restitutions du grand débat, avant les annonces d'Emmanuel Macron aussi. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça ne change pas? On verra ça avec nos informés. Puis cette scène aussi, des cris racistes contre un joueur de football. C'était hier soir pendant le match Dijon-Amiens. Un supporter arrêté, placé en garde à vue. L'exécutif condamne, promet des mesures. Pour parler de tout ça, nos informés sont là dans le studio de France Info. Bonsoir Judith Vintraub.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro Magazine. Stéphane Rosès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la société de conseil CAP, enseignant à Sciences Po et HEC. Bonsoir Dominique de Montvalon.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et éditorialiste Benjamin Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques à l'ENS, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po. Bienvenue à tous les quatre, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Voici les informés sur France Info. Paris, Le Mans, Reims, Besançon, Tours, Toulouse, surtout Toulouse aujourd'hui d'ailleurs. Des villes parmi d'autres à nouveau, théâtre aujourd'hui de la mobilisation des gilets jaunes, des affrontements aussi. Encore parfois à Toulouse, notamment 31 000 manifestants aujourd'hui dans toute la France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 5 000 à Paris, c'est plus que la semaine dernière. La place Beauvau comptait 22 300 manifestants et voilà ce qu'on entendait dans le cortège toulousain. Écoutez.
Quand Macron nous met de la répression en face, il pourra continuer avec sa répression. Sa répression, on est quasiment même plus en démocratie là. Les gens ont peur de venir manifester. Il y a des gens qui nous disent on est d'accord, mais on a peur de venir. Voilà, on est où là?
La première violence, c'est celle d'une société qui ne respecte aucun principe démocratique, ne serait-ce que celui de l'égalité. Ils sont en train de casser les services publics, ils sont en train de tout privatiser au nom de l'économie. Et en réalité, les jeunes sont isolés dans leurs problèmes. Donc ça, c'est une violence terrible.
Voilà, plusieurs mois de mobilisation et on entend toujours ces mêmes propos dans les cortèges de Gilets jaunes. Benjamin Morel, irréconciliable avec Emmanuel Macron, ces manifestants?
Si vous voulez, quand on prend aujourd'hui les enquêtes d'opinion, on voit très clairement qu'on a deux France. En fait, on en a plus que deux, mais qu'en tout cas, on a une France qui soutient les Gilets jaunes et on a une France qui se cristallise plutôt contre ces manifestations et qui trouve que le grand débat a servi à quelque chose et a permis de faire émerger un certain nombre de solutions. Ce divorce fondamental, il n'est pas encore terminé, si vous voulez. Là, il va falloir voir ce qu'annoncerait Emmanuel Macron, mais très clairement, on est face à des lignes de clivage aujourd'hui très fortes. Après, il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui se mobilisent encore, parmi les Gilets jaunes, surtout dans des samedis qui sont quand même, même s'il y a plus de personnes que la semaine dernière, des petits samedis, c'est-à-dire que ce ne sont pas des samedis où l'arrière-ban des Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui viennent de province, etc., mais qui ne peuvent pas se déplacer parce que ça coûte cher tous les samedis, eh bien, se réservent plutôt pour la semaine prochaine, qui sera vraiment le samedi symbolique avec les annonces d'Emmanuel Macron. Donc, sur un petit samedi, on a d'abord et avant tout affaire à des gilets jaunes qui sont plutôt politisés, qui sont plutôt des militants, qui ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble du mouvement et qui ne sont pas surtout représentatifs de ce qui pose aujourd'hui réellement problème au pouvoir, c'est-à-dire la forte proportion des Français qui soutiennent les gilets jaunes. Et Emmanuel Macron va d'abord et avant tout s'adresser à ces classes sociales qui aujourd'hui soutiennent encore à 40-50% le mouvement.
Judith Vintraub, c'est votre avis sur le profil de ces manifestants qui sont là aujourd'hui, qui sont
plus
nombreux que la semaine dernière.
Il y a eu tout à fait une mutation du mouvement. Bon, d'ailleurs, on le voit grâce à vos images et grâce à vos reportages. Les gens vraiment âgés, même si vous en avez trouvé une, sont quand même moins nombreux qu'au départ, où les retraités faisaient des gros bataillons des mouvements du samedi et même sur les ronds-points. Mais quoi qu'il en soit, même si le nombre de manifestants reste l'étiage bas, c'est pas anodin qu'alors que Emmanuel Macron n'a pas encore annoncé les mesures qu'il comptait prendre, les gilets jaunes se retrouvent plus nombreux dans toute la France. Il faut quand même le souligner. Alors ça fait partie d'une stratégie de montée en pression. Ils se disent que quelques jours, peut-être quelques heures avant que le président de la République fasse connaître ces choix, il est important de montrer qu'ils sont toujours là, mais ça veut dire aussi que Emmanuel Macron pour l'instant, doit encore réussir son pari. Et son pari, c'est pas qu'il y ait plus personne dans les rues le samedi, parce que ça, c'est impossible. On l'a entendu avec les deux courtes interviews que vous avez faites. De toute façon, des gens qui vous disent qu'on n'est pas en démocratie en France, vous ne les rattraperez pas. Mais en revanche, l'objectif que se fixe Emmanuel Macron, c'est de faire baisser le soutien de l'opinion aux Gilets jaunes, soutien qui reste quand même très massif pour la 22e semaine de manifestation du samedi.
Stéphane Rosier, s'il doit prendre ça comme un avertissement, Emmanuel Macron, et surtout, est-ce qu'il va réussir à atteindre cet objectif qu'évoque Judith Vintraub?
Ça veut dire qu'ils prennent la mesure, effectivement, du fond de notre discussion. Si on prend les choses dans leur dynamique, on voit bien que ça ne va pas être du tout facile pour le président Macron. Pourquoi ? Parce que au départ, quand il y a dans les rues un peu moins d'un demi-million de Français, soutenus par 80% des Français, au fond, c'est une chacrie et le reflux n'a pas lieu en début décembre quand il transfère 10 milliards, il arrête la taxe. Le reflux dans la rue et dans le soutien de l'opinion, c'est quand il se met à visa au niveau des Français en se remettant dans un débat avec eux. Ça veut donc dire que le pays est en suspens. Le pays n'a pas changé dans ses fondamentaux. Ils étaient de deux natures dans les études. Restauration de la souveraineté de la nation, le RIC est un moyen de remettre un flux entre la nation et ses représentants et la justice fiscale au travers de la symbolique de l'ISF. Bon. Donc le pays retient son souffle. Il attend le président. Or, évidemment, les annonces du Premier ministre, c'est ni la souveraineté, puisqu'il se met entre le président et le pays. Et au lieu de dire justice fiscale, il dit plus de pression d'impôts. Si c'est ça ce que dit le président, alors les choses vont repartir sous une forme ou une autre.
Stéphane,
donc il y a déjà un sujet de bonne analyse de ce qui se passe dans le pays.
Nous aussi, on va retenir notre souffle, hein, puisqu'il est le temps de l'essentiel de l'actualité. Il est 20h10 et c'est à vous, Léo Técher.
Tolérance zéro contre le racisme, c'est ce que demande la Fédération internationale de football après l'agression d'hier soir à Dijon des cris de singe contre le joueur d'Amiens Prince Guano. La FIFA rappelle la procédure à suivre pour arrêter un match et sanctionner les pseudo-supporters. Un adolescent blessé à Rouen en marge de la manifestation des Gilets jaunes aujourd'hui, des bris de verre dans le visage après la casse d'un abribus. Autre blessé à Nantes et à Toulouse, la ville rose décrétée capitale de la mobilisation cette semaine. Quelques tensions dispersées en fin de rassemblement. Le ministère de l'Intérieur fait état de 31 000 manifestants aujourd'hui dans toute la France. Des migrants débarquent ce soir à Malte. 62 personnes qui étaient restées bloquées 10 jours en Méditerranée sur le navire de l'ONG CI. Un accord trouvé aujourd'hui va permettre de les répartir entre l'Allemagne, la France, le Portugal et le Luxembourg. Un nouvel homme fort au Soudan, mais le pouvoir reste entre les mains de l'armée. Le conseil militaire chargé de la transition, après avoir renversé le président Omar el-Béchir, voulait calmer les manifestants. Il promet la rupture avec l'ancien régime et annonce la libération des protestataires. Et puis, du foot ce soir, 11 minutes de jeu et toujours pas de but entre Caen et Angers, Monaco et Reims et Strasbourg-Guingamp. La revanche de la finale de la Coupe de la Ligue gagnée par les Alsaciens. Tout à l'heure, Marseille a battu Nîmes 2-1 et reste donc dans la course à l'Europe.
France Info.
20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Dominique de Montvalon, on parlait à l'instant de ces annonces d'Emmanuel Macron qui sont attendues dans les prochains jours après le terme du grand débat. Quelque part, oui, Emmanuel Macron doit convaincre, mais il n'arrivera pas à faire cesser les manifestations parce qu'il y a une ritualisation du mouvement des Gilets jaunes de toute façon.
Parce qu'il y a une ritualisation, effectivement, je reprends volontiers votre mot, mais au-delà de ça, parce qu'il y a une France fracturée, sa façon de gouverner le pays, il essaye de corriger le tir aujourd'hui, mais sa façon de gouverner le pays pendant plusieurs semaines, même quelques mois, n'a rien arrangé, même si ces fractures viennent de plus loin. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue samedi prochain, qui seront beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, et simplement l'interrogation est de savoir si sur quel ton et éventuellement, j'ose espérer que ce ne sera pas le cas, s'il y aura violence ou pas à ce moment-là, mais il y aura forcément une grosse mobilisation. Alors moi je pense que c'est pas, je me distingue un tout petit peu parce que ils sont un tout petit peu plus... On prend un microscope et on observe les faits. Alors, ils sont un tout petit peu plus nombreux aujourd'hui. Je ne mésestime pas le mouvement, qui est un mouvement historique depuis le début. Mais ils sont un tout petit peu plus nombreux qu'ils n'étaient la semaine dernière. Ils n'étaient pas très nombreux. Quand on regarde les choses, ils n'étaient pas très nombreux. C'est assez extraordinaire de voir la façon dont on suit au microscope des manifestations d'une ampleur qui est assez limitée. Mais j'arrête là pour la situation d'aujourd'hui. Il n'y a aucune chance que la semaine prochaine, il y ait l'amorce d'une réconciliation entre ces gilets jaunes-là et le président. L'enjeu pour Macron, me semble-t-il, c'est de savoir s'il va poser des actes et adopter un ton qui lui permettra de ressouder son propre camp, élargi, du moins telle est son ambition.
Il faut Benjamin Morel qui resolidifie sa base aussi, Benjamin Macron.
Si vous voulez, il y a deux objectifs pour Emmanuel Macron. La première, en effet, c'est de bétonner sa base électorale. Et il ne faut pas oublier que le président a des électeurs. Que ces électeurs, eh bien, ils sont un peu de briques et de brocs et qu'ils tiennent sur l'idée que Emmanuel Macron a un programme, qu'Emmanuel Macron applique son programme. Et cette base électorale, elle a plutôt souffert ces derniers mois. Actuellement, on voit les sondages pour les européennes. On dit Emmanuel Macron, La République en marche, fait à peu près les mêmes scores qu'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Mais ça en trompe l'œil, en fait, parce que ce sont des élections qui mobilisent très peu et qui surmobilisent la base électorale de La République en marche. LREM ne devrait pas être entre 20 et 25%. LREM devrait être à 30%, voire plus. Donc on a une démobilisation de cette base et il faut que le président de la République s'adresse également à cette base. Mais Emmanuel Macron n'est pas que le président de sa base électorale. Il est le président de tous les Français et donc il doit être capable de s'adresser au-delà au reste des Français. Et le problème, c'est que là-dessus, eh bien, il y a des impératifs contradictoires qui sont difficiles à marier.
Stéphane Rose, je vous vois réagir.
Je ne suis pas du tout d'accord avec mes amis, mais comme je suis en général pas d'accord avec ce genre d'analyse, je pense que la vie politique, elle part du bas. Et que ensuite, la gauche, la droite, les pourcentages qui se terminent à 100 ne sont que l'expression d'une physique, d'une dynamique. Ce que viennent dire nos amis, c'est au fond le pari du logiciel juppéiste. C'est ce qui guide Matignon et Bercy. C'est l'idée, on s'adresse à notre électorat, c'est à la fois des gens qui veulent la transformation du pays et l'ordre. Bon. Mais avec ça, on a un socle, on peut lors d'une proportionnelle, éventuellement, je ne crois pas, mais être devant le Rassemblement national. Mais les sujets du pays, les sujets de l'heure, c'est pas seulement gouverner avec 30% des Français, c'est faire en sorte que, contrairement lors du conflit de la SNCF, on puisse continuer... Enfin, c'est comme lors avant l'été, on puisse avancer les réformes. Et donc là, je crois que le sujet, c'est pas du tout la gauche, la droite et l'électorat, est-ce qu'on gagne 3% ou pas. C'est reprendre la main par rapport aux fondamentaux du pays. Il s'était fait élire en disant « Le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation ». Cet été, il a semblé complètement abandonner ça, revenir à la politique de ses prédécesseurs. Donc ça nécessite d'être, à mon avis, beaucoup plus ambitieux que solidifier ses soutiens.
Reprendre les commandes, vraiment.
Oui, il y a des gros chantiers en cours. Retraite, assurance chômage, réforme de la fonction publique, pour lesquels Emmanuel Macron, effectivement, ne pourra pas se contenter de sa base électorale. Il faut absolument qu'il retrouve cette capacité à gouverner. Et comme je continue à croire que, quoi qu'il annonce, il ne convaincra pas les gilets jaunes, aujourd'hui encore dans la rue, de rentrer chez eux, il faut vraiment qu'il casse ce lien entre ce grand nombre de Français, pas majoritaire mais un grand nombre quand même, qui continue à adhérer aux gilets jaunes. Il y a une autre dimension qu'on a vu surgir cette semaine et qui est une relative nouveauté, c'est que quand Édouard Philippe a fait la restitution du grand débat, rappelez-vous, il a insisté très fort, c'était presque une injonction à Emmanuel Macron pour dire qu'il fallait absolument trouver les moyens de baisser la pression fiscale et de baisser la dépense en même temps. Il a dit les Français sont arrivés à un niveau de tolérance zéro pour la fiscalité. De l'autre côté, vous avez François Bayrou qui a dit attention, la vraie réponse, elle doit être sociale. C'est la première fois qu'on voit autant de divergences aussi clairement exprimées autour d'Emmanuel Macron.
Dominique, juste une précision, je me suis mal exprimé pour que tu aies pu interpréter mes propos comme tu les as fait, de façon néanmoins un petit peu caricaturale, de toute façon.
Mais
c'est la loi de la discussion.
On se connaît depuis 20 ans, on peut se le permettre.
Évidemment que si l'objectif de Macron était dans la tradition jupéiste, ça m'amuse que ce soit dit comme ça, mais pourquoi pas, dans la tradition...
C'est le logiciel 95-97.
Évidemment que s'il reprend son compte ce logiciel et s'il se met dans cette logique-là, et que son objectif serait demain uniquement de regrouper un petit noyau solide de supporters inconditionnels pour essayer, depuis la forteresse, de tenir le coup, il est foutu. Bon, il doit s'adresser
c'est
à l'ensemble.
C'est le coup de force dont il doit s'adresser.
Il doit s'adresser à l'ensemble des Français. J'ai voulu simplement, j'arrête mes explications, mais j'ai voulu simplement dire que la complication pour Macron, c'est qu'il y a la coagulation de cette montée en puissance des gilets jaunes avec tout ce que cela signifie depuis le début. Je m'intéresse plus aux gilets jaunes d'origine qu'à ceux plus radicalisés d'aujourd'hui. Conjugué avec le doute qui s'est introduit dans son électorat, celui qui l'a fait président. Et il y a un doute, et de ce point de vue-là, il doit quand même... Attention, si le doute persiste, voire s'aggrave, alors là, c'est l'impasse.
Benjamin Morel, on entendait Julie de Ventroux nous dire qu'il y avait beaucoup de voix qui s'élevaient pour parler au président, que ce n'est pas forcément les mêmes. Hein. Qu'est-ce qui a l'oreille du président aujourd'hui ?
C'est pas forcément les mêmes, si vous voulez. Alors, on parle beaucoup, en effet, des chefs de parti, notamment François Bayrou. On parle également beaucoup de Richard Ferrand. On parle également d'un certain nombre de membres de la majorité. Mais encore une fois, on est dans un système avec Emmanuel Macron qui est très concentré autour des mains d'un seul homme qui, in fine, décide. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Fondamentalement, il y a aujourd'hui un hiatus entre, d'un côté, bétonner une base électorale, mais, et je suis absolument d'accord, c'est pas suffisant. Il devrait y avoir trois messages. Un message à la base électorale, oui, notamment retraités. Un message également à ceux qui ont fait le noyau dur du mouvement des Gilets jaunes. On voit tous les messages qui commencent à être lancés, oui, par exemple, vis-à-vis des mères célibataires. Et un message plus large, un message à la nation, la reconstruction d'un projet national. Et c'est peut-être celui-ci qui est le plus dur à mener aujourd'hui.
On va écouter une voix qui n'est pas du tout d'accord avec Emmanuel Macron dans un instant, puisque c'est une voix insoumise qu'on écoutera juste après l'essentiel de l'info. Il est 20h20 et c'est à vous, Léo Téchère.
Les gilets jaunes un peu plus nombreux avant les annonces d'Emmanuel Macron d'ici quelques jours. 31 000 manifestants aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur. Il n'était que 22 000 la semaine dernière. Quelques incidents et blessés à déplorer à Nantes, Toulouse ou encore Roanne. 5 000 manifestants à Paris. Eux se sont rassemblés pour défendre la filière automobile en Aveyron. Plus de 2 000 personnes réunies à Honnay-le-Château près de l'usine Bosch qui fabrique notamment des démarreurs automobiles. Site menacé par le déclin du diesel. Les ventes sont tombées à 40% l'année dernière en France contre 3/4 en 2012. Jean Lassalle ne se présentera pas aux élections européennes. Il lui manque 750 000 euros pour faire campagne, selon France Bleu Béarn. Le député des Pyrénées-Atlantiques explique qu'il n'était pas en mesure de le faire sans tricher. Les magistrats algériens boycotteront l'élection présidentielle du 4 juillet prochain, scrutin organisé par le président par intérim Abdelkader Ben Salah, encore contesté hier par la rue, qui lui reproche sa proximité avec le démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Une centaine de magistrats manifestaient donc aujourd'hui en soutien de ce mouvement de contestation. Et puis avant un dernier match de rugby ce soir entre Grenoble et Toulon, dans une petite demi-heure à 20h45, La Rochelle écrase Pau 71-21, 10 essais inscrits par les Rochelais. Belle performance également du Stade français, réduit à 13 mais qui s'impose 25-22 contre Agen. Lyon bat Perpignan 47-9 et cet après-midi, Castres est allé gagner à Bordeaux-Bègles 16-12.
France Info.
20h-21h. Les informés, Camille Revel.
Et on le disait à l'instant, ce nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes se déroule dans un contexte un peu particulier puisque la restitution des contributions du Grand Débat a commencé, qu'Emmanuel Macron doit faire des annonces dans les prochains jours. Restitution incomplète, pour l'heure, toutes les contributions n'ont pas pu être prises en compte encore, on vous le disait dès hier sur France Info. Pour Mathilde Panot, qui est députée insoumise du Val-de-Marne, ce Grand Débat, il avait de toute façon pas beaucoup d'intérêt. Écoutez, c'était ce matin sur France Inter.
Comment est-ce possible de faire un grand débat en disant dès le départ « ma politique ne changera pas » ? Oui, nous boycottons son débat parce que ce débat a été fait pour gagner du temps en espérant qu'au bout de 3 mois, il n'y ait plus de mouvement des Gilets jaunes.
C'était juste pour gagner du temps, ce débat juridique.
C'était aussi pour gagner du temps. De ce point de vue-là, la France Insoumise a raison. Là où elle a eu tort, et d'ailleurs elle en est sanctionnée dans les sondages. Alors, pardon, je finis ma phrase en faisant d'en commencer une autre. Elle a eu tort de ne pas participer. Le Rassemblement National, qui tenait exactement le même discours sur l'absurdité qu'il y avait à débattre avec un président qui, c'est vrai, avait annoncé dès le départ qu'il ne changerait pas de cap, a quand même participé au débat, moyennant quoi, dans les intentions de vote, la France Insoumise aux européennes, dans les sondages sur les intentions de vote aux européennes, la France Insoumise décroche totalement, alors que le RN est à touche-touche avec La République En Marche.
Stéphane Rosès, c'était une erreur de ne pas participer à ce grand débat?
Oui, une erreur dans la poursuite d'erreurs d'analyse incroyables. La France Insoumise était le premier opposant à Emmanuel Macron. Il y a eu plusieurs erreurs. La première, c'est de suite dire ce président n'est pas légitime et d'attendre une cristallisation des luttes dès le début. Or, ces cristallisations n'ont pas eu lieu. Je parlais tout à l'heure du conflit de la SNCF où les Français ne soutenaient pas les cheminots, contrairement à 95. Bon. La seconde erreur est liée sans doute à la personne de Jean-Luc Mélenchon, une attitude peu républicaine quand la justice a voulu avancer, faire son travail. Troisième erreur, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, très soutenu par l'opinion au départ, selon moi, ne dit pas dehors Macron, sur le fond, même si des gens disent dehors Macron, ils interpellent le pouvoir politique. C'est une jacquerie. Parce que quand on refera l'histoire, quand on verra le samedi 1er décembre, quand l'exécutif craignait que les Gilets jaunes fondent sur l'Élysée, ils ne l'ont pas fait parce que ce n'était pas une révolution. Ce n'était pas on met dehors le souverain. C'était une jacquerie. C'est-à-dire on s'approche de l'Élysée pour qu'enfin le président revienne sous la coupe de la souveraineté de la nation. Et ça a été une suite d'analyses politiques. Pas du tout, pas du tout. Non, non, dans mon esprit, pas du tout. C'est une caractérisation d'une nature très précise. Dans l'ancien régime, ça tient ensemble la question fiscale et l'interpellation du seigneur et du souverain. Donc c'est une caractérisation historique très précise qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, et en tout cas dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif.
Un mot à propos de ce qu'a dit la députée France Insoumise. Comme tous ses camarades, elle ne cesse de répéter pour justifier leur non-participation au grand débat, ou en tout cas, appelons-le autrement si la connotation est trop macroniste, mais enfin au débat qui a lieu depuis quelques semaines, le fait que Macron aurait dit « de toute façon, rien ne changera ». Mais il n'y a qu'une chose à dire. D'abord, on va savoir, il suffit d'attendre quelques jours pour savoir ce qu'il en est. Si rien ne change, Macron, c'est peu de dire, il est perdu. Bon, donc on verra.
Autre chose, autre particularité de ce samedi de mobilisation, c'est le premier depuis que la loi anti-casseurs est entrée en vigueur. L'anti-casseurs, je vous le rappelle, en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Les préfets ne pourront pas prononcer d'interdiction administrative de manifester. D'autres mesures, elles sont bien là, comme le délit passible de dissimulation du visage, entre autres. Donc une cinquantaine d'organisations, des ONG notamment, organisées des manifestations aujourd'hui pour la liberté de manifester, pour dénoncer des entraves à cette liberté. Écoutez Jean-Claude Guichenet, il est délégué de la Ligue des droits de l'homme en Gironde.
On a eu des exemples, par exemple à Bordeaux, samedi dernier, de nassage sur des lieux qui étaient interdits par les policiers, de telle façon qu'ils puissent effectivement sanctionner, verbaliser les manifestants. Toutes ces dispositions sont des manières de dissuader des personnes qui souhaiteraient manifester, d'aller manifester précisément. Et on considère que c'est une atteinte à cette liberté de manifestation.
Alors l'entrée en vigueur de cette loi anti-casseurs, son existence même, est-ce que c'est une faute de jeu qui aggrave la colère des manifestants pour vous, Benjamin Morel ?
Est-ce que ça aggrave la colère des manifestants ? Disons que c'est un élément sur lequel en effet se cristallise un certain nombre de contestations. Cette loi, elle était probablement pas forcément extrêmement utile. Alors on va voir ce que ça va donner. C'est-à-dire pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour savoir ce que cela donne. Parce que, il va falloir voir si les dispositions qui sont dans cette loi permettent de faire plus d'interpellations et permettent surtout ensuite aux juges de faire des interdictions de manifester judiciaires, donc pas administratives préalables, mais judiciaires. Il va falloir voir également comment est-ce qu'elle est interprétée, cette loi. Vous parliez du délit de dissimulation du visage, ça dépend beaucoup concernant son effectivité de l'interprétation
et
du juge.
Et on va continuer à parler des effets potentiels de cette loi anti-casseurs dans 5 minutes sur France Info, puisque vos informés reviennent juste après la météo et l'info. Vous restez avec nous, Judith Vintraube, Stéphane Rosès, Dominique de Montvallon et Benjamin Morel. À tout de suite sur France Info.
AFIP présente 5 ans de session unique ce soir à 20h pour un live AFIP exceptionnel de duos inédits. Fred Palem et le Sacre du Tympan avec MC Solar, Bachar Mahalife et Christophe, Sandra Nkake et Thomas de Pourquerie, Babix et Archie Shep, Eric Lénine et Hugh Coltman, Chloé et Vassilena Serafimova. FIP, une radio de Radio France.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Et voici les prévisions de Jean-Michel Golinski.
Avant l'arrivée d'un air plus doux en début de semaine, demain les températures maximales vont rester basses dans le nord et dans l'est, également baisser un peu sur les régions méridionales par rapport à aujourd'hui, variant en général l'après-midi entre 9 et 17 en moyenne du nord vers le sud, avec en fin de nuit pas mal de gelée au sol et sous-abri à prévoir sur une large moitié nord du pays, avec pour ce dimanche toujours pas mal de soleil sur la partie centrale, allant de la Normandie à l'Artois, du bassin parisien au centre Val-de-Loire, sur le massif central et du golfe du Lion à l'ouest de la Provence. Plus à l'ouest, le ciel sera souvent voilé de l'intérieur de la Bretagne au Midi-Pyrénées, plus gris et parfois maussade en approchant de l'océan. Sur les régions de l'Est, nuages et éclaircies vont alterner avec des ondées neigeuses à basse altitude le matin dans le nord-est et au-dessus de 1000 mètres l'après-midi sur les Alpes.
Passez une excellente soirée avec nous à l'écoute de France Info. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info, c'est avec vous, Emmanuel Langlois. Emmanuel Langlois pour l'info sur France Info, êtes-vous là?
Oui, je vous écoute, je vous entends. Nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, premier défilé depuis l'entrée en vigueur de la loi anticasseurs cette semaine. Ils étaient 31 000 manifestants dans toute la France, dont 5 000 à Paris, au lieu des 23 000 et 3 500 dans la capitale de samedi dernier. Mobilisation en hausse donc à Paris, où des incidents ont eu lieu au moment de la dispersion du cortège, place de la République. Vive tension à Toulouse dès le début de la manifestation, où deux personnes ont été blessées, une autre à Roanne et une quatrième à Nantes. Cortège aussi dans le calme à Marseille, Grenoble, Lille ou encore Bordeaux. De nouvelles insultes racistes lors d'un match de football. C'était hier pendant la rencontre Dijon-Amiens pour la 32e journée de Ligue 1. Ça se passait à Dijon. Des cris de singe dont a été victime le capitaine de l'équipe Picard, Prince Guano. Le match a même été interrompu quelques minutes à la demande du joueur qui a pu désigner clairement son agresseur dans la tribune. L'homme a été arrêté, placé en garde à vue, qui a d'ailleurs été prolongé ce soir. Parmi les réactions, celle de l'ex-champion du monde, Lilian Thuram, très impliqué dans ces questions de racisme dans les milieux du sport. D'après lui, cette nouvelle affaire, c'est tout simplement un reflet de notre société.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tout d'abord, essayer de comprendre que le racisme qu'il y a dans les stades de foot, c'est lié au racisme qu'il y a depuis extrêmement longtemps envers les personnes noires. C'est-à-dire que, effectivement, si vous pensez simplement que ce sont des personnes stupides qui vont au stade, on va pas résoudre le problème. Le problème est beaucoup plus ample parce que ce racisme existe en dehors des stades. Je pense que la grande majorité des personnes qui ne subissent pas le racisme ne comprennent pas la violence du racisme. Et je pense que la grande majorité des gens ne comprennent pas aussi qu'ils ont aussi une responsabilité. C'est-à-dire très souvent on a tendance à penser que ce sont les personnes victimes de racisme qui peuvent faire changer les choses. C'est exactement comme le sexisme, c'est-à-dire que tous les hommes, nous avons une responsabilité à faire évoluer la situation. Et je pense que nous devons éduquer les plus jeunes, les adultes, à prendre conscience de cela.
Alex, champion du monde de foot, Lilian Thuram. Jean Lassalle jette l'éponge. Le député non inscrit des Pyrénées-Atlantiques renonce à se présenter aux élections européennes. Faute de financement, estimé entre 800 000 euros et 1 million d'euros, l'élu n'a pas réussi à convaincre les banques de lui prêter cet argent. Ils étaient bloqués depuis 10 jours sur le navire d'une ONG allemande. 62 migrants ont pu débarquer à Malte après un nouvel accord de répartition, impliquant cette fois l'Allemagne, la France, le Portugal et le Luxembourg, pays vers lesquels ils vont être dirigés. Et puis deux jours après la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir au Soudan, le conseil militaire au pouvoir annonce la démission du patron du puissant service de renseignement, principal acteur de la répression, de la contestation. Les manifestants restent mobilisés devant le QG de l'armée. 20h33, les informés, ça continue.
20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Et c'est donc la suite des informés de France Info, des informés un peu dissipés ce soir. Toujours autour de la table, Gilles Vintraube, journaliste politique au Figaro Magazine. Stéphane Rosès, président de la société de conseil CAP, enseignant à Sciences Po et HEC. Dominique de Montvallon, journaliste, éditorialiste. Et vous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'ENS, chargé d'enseignement à la Sorbonne et Sciences Po. On parlait, Benjamin Morel, de cette loi anti-casseurs qui a mis une cinquantaine d'ONG dans la rue pour dénoncer des entraves à la liberté de manifester. C'est une mobilisation symbolique, ça ?
C'est une mobilisation symbolique sur une loi qui l'est tout autant, si vous voulez, parce que cette loi en tant que telle, les dispositions qu'il y a dans cette loi ne permettent pas réellement de conjurer les troubles dans les manifestations qu'on connaît actuellement, qui sont en fait pour la plupart des manifestations non déclarées, avec des black blocs qui sont infiltrés, et une loi qui en fait, sur beaucoup d'aspects, est en effet relativement liberticide dans un mouvement depuis plusieurs années, avec notamment l'entrée de l'état d'urgence dans le droit commun, qui tend à restreindre les libertés publiques et qui pose beaucoup de problèmes pour une effectivité très relative.
Judith Vintraube, on le disait, c'est une loi qui a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel.
Oui, alors que ça restreigne les libertés publiques, oui, évidemment, il n'y a pas débat. La question, c'est est-ce que c'est nécessaire d'abord et utile ensuite. Cette loi-là, la loi anti-casseurs, dans l'état où elle est et dans l'état où a choisi de la promulguer Emmanuel Macron, est d'autant plus symbolique que son article principal a été censuré par le Conseil constitutionnel. L'article principal, c'était donner la possibilité à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, d'interdire à quelqu'un dont le préfet pensait qu'il pouvait commettre des violences, de manifester. Cette interdiction est toujours possible par l'autorité judiciaire, et le Conseil constitutionnel a pris la précaution, comme il le fait à chaque fois d'ailleurs, dans sa décision de censure, de dire « si vous voulez que l'autorité administrative puisse interdire de manifester, c'est tout à fait possible, c'est légitime, il l'écrit en toutes lettres, mais voilà comment il faut s'y prendre ». Et Emmanuel Macron a refusé de reformuler l'article. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas avoir d'ennui avec son aile gauche qui avait déjà regimbé lors du vote de la loi.
Je vous propose d'aborder un tout autre sujet maintenant. Revenons à hier soir, c'était un match sur un terrain de foot de Ligue 1, un match entre Dijon et Amiens. À la 77e minute de jeu, très exactement, un supporter pousse des cris racistes, il imite un singe et il vise le capitaine de l'équipe d'Amiens, le joueur noir Prince Guano. L'arbitre interrompt le match quelques minutes, le supporter est identifié, placé en garde à vue. Prince Guano, lui, il a réagi au micro de nos confrères de France Bleu Picardie, écoutez.
Ce monsieur était en garde à vue, il m'a insulté de singe, mais c'est lui qui était en cage. Donc c'est la morale de cette histoire-là, vous voyez. Et avec mes valeurs, je lui pardonne. Je pense que cette réaction aura beaucoup plus d'impact que de porter plainte. Parce que ce monsieur-là, il sait à côté de quoi il est passé. Donc à sa sortie de tout ça, je pense qu'il en parlera à ses enfants. Et ses enfants en parleront aussi aux petits-enfants et ça impactera une génération.
Voilà la réaction de Prince Guano. L'arbitre a arrêté le match hier soir. Le club de Dijon va porter plainte. La Ligue de football professionnel, elle étudie des suites judiciaires. Cette réaction de Prince Guano, Dominique de Montvallon.
Elle est remarquable. Ce qui se passe, c'est que on a déjà quelques cas dans des stades français qui n'ont pas fait l'objet de l'indignation qui s'imposait et des mesures qui, par derrière, devraient suivre. Là, c'est en revanche, c'est très fréquemment le cas. Scandaleusement en Italie, hein. Bon, restons en France. Ce qui est formidable dans cette affaire-là, c'est que ce joueur, moi je m'intéresse beaucoup au football, je veux dire, je le connaissais pas. C'est le capitaine d'équipe d'Amiens qui est pas une équipe star, et ce joueur, peut-être l'ai-je vu sans le remarquer deux, trois fois, mais je ne le connaissais pas. D'abord, il est intervenu immédiatement. L'arbitre a arrêté le match parce que lui a dit, on continue pas dans ces conditions-là. Deuxième moment, il a montré du doigt l'individu qui avait poussé ses cris de singe. Et troisièmement, c'est peut-être le plus intéressant, et donc il y a eu arrêt, le gars a été mis en garde à vue, enfin bon, et puis aujourd'hui toutes les instances légitimement sont mobilisées. Le plus extraordinaire, c'est les paroles qu'il a prononcées. Parce que d'autres à sa place auraient pu, et ça aurait été compréhensible, et s'écarter volonté de revanche, d'amertume, de violence, etc. Il avait une extrême fermeté, avec une mesure qui l'honore et qui rend son message encore plus fort.
Stéphane Rosès.
Ah oui, non, mais Dominique a dit mieux que je n'aurais fait absolument ma réaction justement à la réaction de ce capitaine, et je m'y connais moins en foot encore que Dominique. Mais effectivement, une attitude très républicaine,
oui,
très ferme, absolument qui fait honneur à ce qu'est la France et ce qu'elle devrait être. Et pour les Français, le sport devrait être une métaphore de la façon dont devrait fonctionner la société. Ce qui fait que quand la France gagne des grandes compétitions internationales, tout de suite, ça bénéficie aux gouvernants, parce que l'éthique du sport, c'est on juge les gens à leur qualité, pas à leurs origines, pas au fait de savoir s'ils sont avant, arrière, sur le banc. Donc c'est la bonne articulation, le football, entre la diversité des individus et le collectif.
Mais alors,
c'est pour ça que Dominique a raison. Il faut tout de suite qu'il y ait une réaction de façon immédiate, parce que on sait bien que dans la vie de tous les jours, il y a des discriminations. On sait bien qu'il y a des racismes.
Mais tu sais, contre lesquels honneur, il faut... Ça fait aussi, pardon de t'interrompre, oui, ça fait aussi honneur aux joueurs de football qui sont très souvent moqués, voire, parlons clairement, méprisés, etc.
Oui, oui.
Et là, on a un type qu'on connaît pas, enfin, type, un joueur, oui, qu'on connaît pas, qui est agressé comme il l'est. Chapeau.
Oui, oui, absolument. Je vous propose d'écouter la réaction de la ministre des Sports, hein, Roxana Maracineanu. Elle a réagi sur cette affaire, elle promet des mesures. C'était ce matin sur France Info.
On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être raciste, de penser ce qu'il pense, mais par contre, on peut intervenir sur ce qu'il dit, sur la manifestation de sa pensée. Il faut maintenant mettre en place l'attirail concret. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces matchs? Est-ce qu'on juste on les interrompt? Est-ce qu'on les arrête? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que ça fait partie du règlement intérieur de la Ligue et aussi de la Fédération? Parce que ça passe à la télé, ça se voit. Mais au quotidien, partout dans les stades, franchement, ce qu'on dit du football, c'est que ça devient un endroit dangereux, quoi. Un endroit dangereux où on va jouer parce qu'on se fait attaquer, parce que les parents sont là à encourager des petits-enfants à casser les jambes des autres petits-enfants, mmh, sur le terrain. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. C'est un sport.
On va vous faire réagir à ces propos de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, juste après l'essentiel de l'actu. Il est 20h40, c'est à vous, Léo Técher.
Des rassemblements dans le calme globalement, mais quelques tensions tout de même à la fin des rassemblements de gilets jaunes aujourd'hui, notamment à Toulouse et à Paris, un blessé également à Nantes ou à Rouen. 31 000 manifestants aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur, c'est un peu plus que la semaine dernière. Autre manifestation en Corse, 5 000 personnes rassemblées à Bastia pour demander le transfert des prisonniers nationalistes dans des prisons corses. La préfecture n'a compté que 1 000 manifestants. Le couvre-feu levé ce soir au Soudan, les manifestants libérés, décision du nouvel homme fort du pays, toujours un militaire qui en remplace un autre, l'armée veut montrer patte blanche après avoir renversé le président Omar el-Béchir. Elle promet également de juger ceux qui ont tué les manifestants. Un seul but ce soir sur les terrains de Ligue 1, 41 minutes de jeu et 1-0 pour Guingamp à Strasbourg, 0-0 entre Caen et Angers, pareil entre Monaco et Reims. Et puis du foot féminin aussi ce soir comme tous les week-ends. Le leader qui affronte son dauphin, Lyon, reçoit le Paris Saint-Germain, les deux équipes à égalité de points en tête de la première division. Coup d'envoi dans moins de 5 minutes.
France Info. 20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Et on continue de parler de Ligue 1 de football, hein, mais de ce qui s'est passé hier soir sur ce terrain de Dijon, lors de la rencontre entre Dijon et Amiens, le capitaine amiennois visé par des cris racistes, on entendait, de la part d'un supporter, hein, on entendait à l'instant la réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, sur France Info. Elle promet des mesures contre le racisme, contre l'homophobie aussi. Elle va recevoir le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, mercredi. Ce sont des paroles, Judith Vintraube, il va falloir plus compliqué de passer aux actes.
Je ne sais pas, mais je trouve que interrompre un match parce qu'il y a des paroles racistes, ça me paraît une mesure de bon sens. Donc j'espère qu'elle le fera. Quant à la situation qu'elle décrit en disant les clubs de les terrains de foot sont devenus des terrains dangereux, en parlant de ses parents qui encouragent leurs gamins à être violents avec les autres, elle a tout à fait raison et elle est encore en deçà de la réalité. Ce qu'on voit des comportements chez les joueurs de foot dans les clubs amateurs, que ce soit par la violence entre les gamins, avec les encouragements des parents, que ce soit la violence vis-à-vis des arbitres qui sont des bénévoles, qui sont des gens qui se défoncent pour s'occuper de gamins tous les week-ends et qui se font insulter par les parents, c'est très grave, ça fait des années que ça dure.
Dominique de Montvallon.
Non, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que je rejoins, ce que vient de dire Judith. Mais je dirais que ce qui se passe sur les terrains de football et le long des lignes de touche est à l'image de la société française qui est aujourd'hui traversée par une violence qui n'épargne personne. Et effectivement, on peut aussi rajouter dans le lot le rôle des parents qui défaillent.
Benjamin Morel.
Oui, si vous voulez, je ne suis pas jugé parti parce que je ne vais jamais au stade et que je ne suis pas un amateur de football. Mais je ne pense pas qu'il faille stigmatiser ce sport. C'est-à-dire que, évidemment, que dans une tribune, au regard de la situation, au regard de la catharsis qui est celle, justement, de ces foules, eh bien, il y a des propos qui existent dans la société et qui ressortent de façon plus voyante, plus crue, plus terrible. C'est pas seulement en travaillant sur les stades qu'on arrivera à régler ces problèmes-là. Ils sont plus larges, ils sont plus sociaux. Alors après, est-ce qu'il faut prendre plus de sanctions? Ces sanctions, elles existent déjà. Est-ce qu'il faut pas justement, comme c'était bien évoqué, tout bêtement arrêter le match? C'est-à-dire symboliquement dire, voilà, là, à présent, on n'est plus dans le sport. Là, à présent, au-delà des délits qui ont pu être commis, eh bien, on rompt quelque chose et on le marque symboliquement. Ça m'apparaît plus pédagogique, plus efficace que simplement des sanctions individuelles.
Dominique de
J'ajoute une chose, pardon, je fais journée sportive, mais pardon. Mais c'est pas du sport d'ailleurs. J'ajoute que ce qui était prévu dans le règlement, c'est que le match a été arrêté. L'arbitre a demandé qu'un avertissement soit donné à l'ensemble des spectateurs par haut-parleur, et il avait prévenu que c'est prévu dans le règlement que si jamais ça recommençait une fois, le match était interrompu définitivement, avec par ailleurs toutes les conséquences qu'on aurait pu imaginer.
Stéphane Rosès.
Non, le sujet également, mais ça a été dit par nos amis, c'est l'idée qu'en France et en Europe, il y a une montée effectivement du nationalisme, du racisme et de sentiments de foule. Alors tarde, il y a des grands sociologues qui ont écrit des choses sur le champ, la bascule et je dirais la cristallisation, l'exagération du passage de la conduite individuelle à la conduite collective. Mais sans doute que le sport et le football devraient être, je dirais, un concert de concorde de nations dans la compétition, ça devient de plus en plus le support à des attitudes de renfermement des peuples. Comme les peuples, du fait des modalités de la globalisation économique, financière et numérique, semblent être dessaisis de leur destin, de plus en plus vont chercher dans l'opposition à l'autre de quoi se sécuriser, de se dire « j'ai une place, je dénonce l'autre, l'étranger, je me moque, je stigmatise celui qui a une autre couleur de peau », comme si ça me rassurait, moi, sur ma place dans un monde qui échappe. Car il faut bien expliquer, je sens d'ici la remarque de Judith, il faut bien expliquer l'aggravation de la situation dans le monde. Il faut bien expliquer la montée des nationalismes, du communautarisme, du radicalisme religieux. Il faut bien rendre compte de ce mécanisme.
Je vais faire les gros yeux.
Oui, non, je trouve que Stéphane Rosès part un peu loin, là. On voit le même soutien aux équipes quand il s'agit de villes françaises entre elles. Hein. Vous avez le même genre de comportement. Ça me paraît plus juste. C'est pas le nationalisme qui est en cause.
Ça me paraît
l'acte raciste, c'est une chose en soi qui est condamnable et qu'il faut condamner. Les manières d'exprimer son attachement à son clocher sont rarement dans la parfaite distinction. Mais en profiter pour faire le procès du nationalisme et le relier à ce qui se passe en Europe, ça me paraît beaucoup.
Je viendrai plutôt en soutien à Stéphane Rosès là-dessus. C'est-à-dire que, objectivement, quand on parle justement des équipes locales, etc., je travaille un peu sur le régionalisme, on voit que, justement, il y a une volonté de se réapproprier une identité, qu'elle soit locale et nationale, par des objets qui ne sont pas politiques. La nation républicaine s'était construite sur le politique contre les identités particulières, qu'elles soient régionales, religieuses, raciales, etc. Dès le moment où vous rompez l'idée d'une souveraineté politique, vous retrouvez ces identités. Et c'est à ça qu'on assiste, et c'est ça qu'aujourd'hui on ne sait pas régler.
Dominique de Montvallon.
Ça me frappe. Moi, je fais la remarque que je vais faire, je me l'attribue à moi-même. À quel point cet incident nous amène à parler de choses, peut-être en allant très loin, parfois, mais
Parce que le football est un symbole, est un reflet.
Bien en dehors de Macron, bien en dehors du grand débat. Non, mais ça montre dans quelle société on vit aujourd'hui. On a lieu d'en être fier, on va pas battre notre coupe, mais traversé de contradictions, de violences, de tensions internes dont on trouve les traces un peu partout. Alors une fois que j'ai dit ça, il faut simplement, quand un gars pousse des cris de singe, il doit être coffré et le club en plus sera sanctionné.
Je vous propose d'écouter Lilian Thuram, l'ancien international français qui a réagi lui aussi à ces cris racistes qui ont visé le capitaine de l'équipe d'Amiens. Il avait déjà réagi quand des cris racistes avaient visé Blaise Matuidi en Italie. Voilà ce qu'il dit, Lilian Thuram, écoutez.
La grande majorité des gens ne comprennent pas aussi qu'ils ont une responsabilité. C'est-à-dire, très souvent, on a tendance à penser que ce sont les personnes victimes de racisme qui peuvent faire changer les choses. C'est exactement comme le sexisme, c'est-à-dire que tous les hommes, nous avons une responsabilité à faire évoluer la situation. Et je pense que nous devons éduquer les plus jeunes, les adultes, à prendre conscience de cela.
Voilà, c'est la responsabilité de tout le monde. On peut élargir ce discours que tient Lilian Thuram au-delà du milieu du football. Il faut éduquer.
Je suis un peu gênée avec Lilian Thuram, sachant le discours général qu'il tient. C'est un fan de Frantz Fanon et des théories décolonialistes. Il considère que la police est raciste, ou en tout cas que le racisme de la police est encouragé par l'État. C'est des discours que je récuse totalement. Il se trouve que là, dans ce qu'il dit, tout est parfaitement sensé. Effectivement, c'est pas juste la victime du racisme qui doit s'en émouvoir, mais c'est la responsabilité collective. Mais permettez-moi de ne pas adhérer à l'ensemble des thèses de Lilian Thuram.
Sur celle-ci en tout cas, est-ce que la prévention doit commencer dès le plus jeune âge, y compris dans le football amateur, Stéphane Rosès?
Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Judith. Il y a eu plusieurs Lilian Thuram. Il y a eu celui lorsque nous avons été tous ensemble avec Zidane, et où ses interventions étaient très intéressantes, très bien, très sensées. Et puis, dans la dernière période, il a eu une dérive racialiste, comme ce que nous avons à subir en termes de liberté d'expression, liberté de création, c'est-à-dire un angle d'approche où on ne considère plus les questions de société en soi, mais au travers d'un prisme qui est un prisme non pas sur les principes. Et là, la déclaration Thuram est très bien, mais d'autres déclarations deviennent communautaristes et racialistes, et ça, j'y suis opposé. Mais rien à dire concrètement sur ce qu'il dit là. Concrètement, évidemment, c'est dès le plus jeune âge. Évidemment, il n'y a pas que l'école, il y a le milieu familial, il y a le quartier, il y a le voisinage, et ce que disait Dominique de Montvalon et Morel. Et bon, c'est-à-dire, il y a une société qui se fracture et qui peine à retrouver les éléments du commun. Et la contradiction de Thuram, c'est que sa déclaration-là est très bien, mais d'autres déclarations, au fond, segmentent la société.
Oui, mais
comme s'il fallait...
Comme on n'en parle pas aujourd'hui, on va éviter d'en dire plus.
Okay, on va s'arrêter là. On va écouter les déclarations de notre ami Léo Téchard, puisqu'il est 20h50 et que c'est le rappel de l'actu tout de suite.
Et c'est la mi-temps sur les terrains de Ligue 1. Tout est encore à faire, un partout entre Strasbourg et Guingamp. Pas de but entre Monaco et Reims. 0-0 également entre Caen et Angers. Cet après-midi, Marseille a battu Nîmes 2-1. L'OM qui est donc finalement toujours en course pour le podium. Après donc la défaite de Lyon hier soir, 2-1 contre Nantes. Conséquence, Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Il déplore un climat négatif et des supporters qui en venaient même à souhaiter la défaite du club. 31 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 80 000 selon le nombre jaune. Mobilisation des gilets en légère hausse à quelques jours des annonces d'Emmanuel Macron après le grand débat. Quelques incidents et blessés à Nantes, Toulouse et Roanne. Un adolescent touché par des bris de verre après la casse d'un abribus. Un vaste réseau d'escroqueries démantelé dans Lyon. 170 victimes retrouvées, toutes abusées par 9 personnes d'une même famille mises en examen pour démarchage abusif. Elles proposaient par exemple des travaux de nettoyage ou de démoussage des toitures, montant du butin 300 000 euros. Puis le footballeur Prince Guano porte bien son prénom selon la maire d'Amiens, Brigitte Fourré, qui réagissait sur France Info à l'agression raciste dont a été victime le joueur hier à Dijon. Elle se dit scandalisée, mais retient surtout la réaction de Prince Guano qui est allé demander à l'arbitre d'arrêter le match.
France Info. 20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Et comme chaque samedi, place au coup de cœur de nos informés. Vous avez envie de nous parler d'un livre, d'une pièce, d'un lieu, d'une rencontre, que sais-je. Judith Vintraube, avec vous, on allume la télé, tout est politique avec vous, même votre choix de série.
Mais oui, hein. Je suis désolée, c'est une série effectivement qui s'appelle The VIP, avec la formidable Julia Louis-Dreyfus, une actrice américaine, c'est une série américaine qui passe sur OCS, je le signale quand même, au cas où ça intéresserait les auditeurs, et qui raconte en fait une femme politique américaine qui est à la fois loin de nous parce que c'est aux États-Unis et totalement proche parce qu'elle ne vit, ne fonctionne et ne pense qu'à la communication. C'est drôle, c'est cruel. Le personnage qu'elle fait de vice-présidente et de candidate dans la saison 7, puisque c'est la dernière série qui passe en ce moment, la dernière saison qui passe en ce moment, c'est vraiment très, très, très cynique et à hurler de rire, je la conseille.
Vous l'avez déjà regardé peut-être, messieurs?
Non.
Eh ben, ça vous fera un conseil.
Voilà. Mais je suis impressionné par ce que vient de dire Judith, donc il y aura du suivi.
Stéphane Rosès, vous avez choisi un ouvrage, Le Temps de l'Alternative. C'est signé de qui d'ailleurs, justement?
Justement, on ne sait pas. Alors, du coup, c'est pratique parce que nous, en France, on a tendance à étiqueter les gens et ensuite à voir ce qu'ils disent en fonction de où ils sont. Or là, j'ai l'impression que c'est volontaire. C'est signé un citoyen. Alors, il est quand même dit que la personne a côtoyé, a été au sommet de l'État. Il travaille dans le secteur des entreprises au plan international, notamment la finance, et il dresse un constat. C'est écrit de façon courte, simple, sur pourquoi en sommes-nous arrivés là. Pourquoi les peuples et la France aient le sentiment d'être dépossédés justement de son destin et propose 5 chemins pour que notre pays ressaisisse la question de la souveraineté. Et c'est assez précis, mais surtout, ça tient ensemble, on en parlait au fond, les questions culturelles, les questions politiques, les questions économiques, les questions financières, les questions numériques. Et donc, c'est un ouvrage qui est court, qui est simple à lire et que j'ai trouvé être très dense en termes de propositions. Il est disponible sur Internet, d'ailleurs, Le Temps de l'Alternative. Alors, moi, j'ai lu les idées, j'ai deux, trois personnes qui auraient pu écrire ce livre, mais au fond, c'est très bien qu'on ne sache pas.
Il y en a deux de trop, hein, de toute façon.
Oui, absolument. Et où c'est peut-être aucun des trois, d'ailleurs. Oui.
Dominique de Montvalon, avec vous, on remonte le temps, vous avez une découverte.
Oui, j'ai été très frappé, je reste frappé d'une annonce qui a été faite cette semaine. Donc, c'est la découverte au... Je me le suis noté, ça m'a marqué, mais ça me trouble presque. Hein. La découverte faite aux Philippines d'une race humaine inconnue à ce jour et disparue, excusez du peu, depuis 50 000 ans. Alors, on pourrait croire que c'est de la science-fiction.
Oui. Ah oui.
Mais c'est sérieux?
Oui, je sais spécial. Bien.
Non, c'est pas.
Donc, c'est pas des sapiens, sont des
non, 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 c'est autre chose que des sapiens.
Ah oui.
C'est des cousins. Si on devait faire dans l'hyper sommaire, ce sont des cousins lointains. C'est incroyable. C'est incroyable et il y a quelque chose pour moi dans tout cela, dans les premières informations qui nous sont données, à la fois de fascinant, mais aussi de troublant. Hein. À un autre moment dans la semaine, on nous a parlé du trou noir et tout. On se rend compte qu'on est bien petit dans notre studio, là.
On est bien peu de choses. Benjamin Morel, vous avez un coup de cœur pour des coups de gueule, vous?
Oui, moi, plutôt un coup de cœur pour des coups de gueule. J'ai été marqué par deux articles de Tribune cette semaine. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de cette pièce d'Eschyle qui avait été interdite à la Sorbonne.
On a interdite, empêchée.
Oui,
de
empêchée,
passer.
Pardon.
C'est tout à fait différent.
On a une tribune du professeur Olivier Beau qui dit que, grosso modo, les intellectuels qui ont participé au débat avec Emmanuel Macron sur France Culture font l'objet d'une placardisation à l'EHESS en disant, eh bien, ils ne font plus partie des universitaires légitimes pour avoir débattu avec le président de la République. On a également une interview d'une égyptologue dans Le Point qui nous explique qu'aujourd'hui, il est très très difficile d'enseigner en France l'Égypte ancienne parce qu'on se retrouve face à des groupes communautaristes qui, grosso modo, nient la légitimité des enseignants à enseigner cette discipline-là. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'université, qui historiquement a été le premier lieu de la liberté et du savoir, est un milieu non seulement menacé, mais peut-être plus menacé encore que d'autres champs sociaux. Et donc, et c'est un coup de gueule un peu corporatiste, je dirais.
Non, c'est un échange. Merci à vous quatre. Vous êtes journaliste politique au Figaro Magazine, Stéphane Rosès, président de la société de conseil CAP. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po et HEC, Dominique de Montvalon, journaliste et éditorialiste, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'ENS, chargé d'enseignement à la Sorbonne et Sciences Po. Dans un instant, votre météo et l'info sur France Info à l'édition visuelle. C'était Audrey Morelato à la réalisation Andrei Yanos. À demain, même heure, même studio pour les informés de France Info.